Pour la philosophie première, par la permerie Dominique Philippe, le 13 février 2002 à Saint-Judas.
Nous essayons de voir comment la dimension du facere, du réaliser quelque chose, est quelque chose est essentiel à la personne. Mais ça peut se comprendre selon divers aspects. Ça se comprend d'abord, et nous l'avons vu, le fait de bâtir quelque chose, une hutte, une tente. Et on verrait ça très bien dans l'Écriture, quand David voit que on a une maison, il s'est construit une demeure, et que pour Yahvé, on n'a rien fait. C'est très joli comme réflexion. Il faut construire un temple. Le facere religieux. On serait aujourd'hui juste à l'inverse de David. Toutes ces églises qui sont en Europe, ces vieilles églises qui sont en Europe, faisons-en des salles de fête, puisqu'il n'y a plus personne dedans. On voulait prendre la cathédrale de Chartres et en faire la cathédrale humaine. Il y a ça, on ne veut pas les détruire, à la Révolution on les détruisait, on est beaucoup plus intelligent qu'à la Révolution, on les transforme en une demeure humaine. C'est très significatif ça. L'homme a besoin de construire son chez-soi. Alors, ce qui est terrible, c'est quand l'homme inverse. Je construis mon chez-moi par une tente, par une maison, par une demeure. Je le construis par ma cuisine. Il faut bien manger. Et puis, avec une intelligence qui risque de confondre le facere humain et le facere divin, qui est la création. On veut se construire. Vous voyez, on passe du facere humain au facere immanent à nous. Ce facere immanent à nous, selon une certaine tradition, c'est la logique. La logique est un art. Et saint Thomas le dit avec beaucoup de précision, c'est l'art des arts. Ars artium. C'est très important de comprendre ça. Parce que on trouve justement le fait de construire sa maison, son intérieur, et tout est fait pour cela. On se construit soi-même. La philosophie consiste à se construire soi-même. Et advenir l'élément le plus élevé qui existe dans le monde. Vous voyez, transposer les constructions matérielles qui veulent aller jusqu'au ciel, c'est vieux ça, depuis la tour de Babel. Les hommes ont toujours cette ambition-là d'atteindre le ciel par leur construction. À notre époque, on veut atteindre le ciel en se construisant soi-même. La logique. La logique devient reine. On se fait. Alors, à la place de dire logique, on dit tout simplement se faire soi-même, puisque c'est la base de toute chose, c'est soi. Ça, personne ne peut me le retirer. Tout le reste, on peut me le retirer. Tout ce que je fais et qui est visible, on peut me retirer. Puisqu'on peut même détruire les bâtiments les plus élevés. Et ils peuvent tomber en un rien de temps. Alors on construit soi-même, on se construit soi-même. Et la philosophie consiste dans cette construction intérieure. Oui, et c'est la logique. La logique prend tout. On identifie l'être mathématique et l'être réel, l'être logique et l'être réel. Alors, ce serait très intéressant de voir la différence entre le jugement d'existence, ceci est, avec la connaissance intuitive mathématique, l'être rationnel et la connaissance logique de l'être de raison, qui est un être purement virtuel que l'homme se fabrique. Et il construit sa maison et veut que ce soit l'immeuble, la construction la plus grande qui existe au monde et qui soit la plus élevée intérieurement, c'est-à-dire en creusant, puisque l'altitude intérieure, elle consiste à creuser, à chercher toujours ce qu'il y a de plus fondamental. Quand vous construisez à l'extérieur quelque chose, vous essayez qu'elle atteigne le plus le ciel, qu'elle soit tellement élevée qu'elle atteigne le ciel. Quand vous construisez quelque chose intérieurement, vous creusez. Et vous creusez toujours plus loin. Quel est le premier moment où vous êtes vous-même? Et vous êtes vous-même quand vous avez écarté tous les autres. Puisque les autres, c'est pas vous. Donc, il faut arriver à cette espèce de pureté intérieure de soi. C'est très curieux. Cette nostalgie de la pureté. Ce qui est fausse. Parce que la pureté, elle est dans l'amour. Elle n'est pas dans l'intelligence. Il n'y a que Dieu qui est simple. Nous ne sommes pas simples dans l'intelligence. Nous ne sommes pas simples dans la logique. C'est la relation. L'être le plus débile. Et cet être le plus débile, on l'exalte. Parce que c'est le seul que l'homme est capable de faire, de réaliser. Alors, c'est très important de comprendre cette nostalgie, d'arriver à la pureté. Le premier attribut de Dieu, en théologie, pour saint Thomas, c'est la simplicité. Donc, la nostalgie la plus radicale qui existe dans l'homme, c'est de vouloir atteindre en lui-même et par lui-même cette simplicité. Il est. Alors nous devons bien comprendre la tentation de l'ipsolipsisme, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'ipsolipsisme, c'est-à-dire il n'y a que moi. Je suis le premier. C'est une tentation, hein, parce que c'est vrai qu'on est premier. Je ne sais pas trop où je suis premier. Posez-vous la question, où est-ce que vous êtes premier ? Cherchez bien. Et vous n'arrivez pas. Vous êtes premier nulle part, puisque vous êtes créé. C'est embêtant, ça. Ce qu'il y a de plus foncier dans mon être, c'est d'être créé. Et je voudrais découvrir ce premier qui est seul. C'est la grande, grande tension, ça, actuelle. L'ipsolipsisme, n'est-ce pas, cet isolement complet. Vous voyez, au fond, c'est, si on est chrétien, c'est l'antithèse la plus absolue contre le christianisme. Puisque le christianisme, par le Christ, veut que l'amour de Dieu et l'amour du prochain soient le même. Alors vous voulez dépasser l'amour de Dieu et l'amour du prochain par l'amour de vous, vous-même. Vous êtes la seule stabilité parce que vous ne dépendez de rien. Vous croyez dépendre de rien. Vous forgez cet isolement complet. En réalité, vous dépendez de Dieu. C'est sûr. Vous dépendez de quelqu'un. Et vous dépendez radicalement de quelqu'un. Et on cherche à ne dépendre de rien. Bon, c'est peut-être la tentation dernière. Au point de vue des tentations, on ne sait jamais quelle est la dernière. Mais, parce que le démon en invente toujours. Mais c'est vrai que c'est une tentation fondamentale. Alors, je crois que quand on voit le facere qui est utile à la personne, comprenons bien ce facere et ne l'identifions pas à cette espèce d'ipsolipsisme où je me façonne seul, se façonner seul. Se façonner seul comme si on était Dieu. Alors, il faut voir que la dimension du facere est essentielle à la personne. Vous voyez, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, hein, c'est le vieux dicton, en face de cette terrible tentation actuelle. Parce que c'est vraiment la tentation actuelle. Des philosophes veulent ça. Ils veulent leur philosophie qui se construit à partir d'eux. Et ils veulent chercher ce qui est le fondement le plus radical de tout et qu'on ne pourra pas déloger. Nous, nous savons qu'on pourra toujours le déloger parce que l'homme ne peut pas trouver en lui cette solitude absolue. Il la cherche indéfiniment, parce que l'être mathématique est la relation, l'être de raison est la relation, et la relation, c'est deux. On n'est jamais seul dans la relation, on est toujours deux. L'être humain ne peut pas être seul, c'est la grande tentation. Alors, il faut comprendre cette tentation en comprenant le réalisme très simple du Faturé. L'art artisanal, à ce point de vue-là, c'est le plus petit de la personne humaine. Vous avez tous vu les gosses auprès de la mère, pendant que les grandes personnes se baignent, eux, ils regardent le sable et construisent leur petite maison, leur petit château, leur petit... C'est extraordinaire que, comme l'homme, tout de suite, construit, il fait. Avec du sable, c'est l'avantage, c'est que ça ne résiste pas. On peut mettre tout ce qu'on pense, mais on fait quelque chose. Le facere est l'antidote le plus fort de cet ipsolipsisme. Et ça, c'est très important de comprendre ça. C'est très important. Le facere, dans sa première dimension, c'est le plus petit, philosophiquement, faire quelque chose. Faire la cuisine, c'est excellent. Ça nous oblige de voir qu'il y a quelque chose autre que nous, ce que nous mangeons. Mais vouloir se manger soi-même, on sait ce que ça signifie. Alors, il y a ce facere artistique, il y a ce facere logique. Certaines personnes ont la tentation de ramener toutes les sciences à la logique mathématique. C'est le grand danger. Il y avait à Fribourg un père qui aimait la logique mathématique et qui prétendait, il y a 30 ans, que dans 20 ans, tout, il n'y aurait plus que la pensée mathématique, la logique mathématique, il n'y aurait plus que ça. Et cette terrible tentation était l'Eucharistie. Je n'arrive pas à ramener ce dogme à la logique mathématique. Le passage du pain au corps du Christ. Et c'était son gros problème. C'est bien évident que la logique mathématique ne nous dit rien de Dieu. Et donc rien de ce qui est de l'ordre de la foi. Alors pour celui qui, la logique mathématique, devient sagesse, voyez comme c'est effrayant. Dans sa jeunesse, il croyait. Dans sa vieillesse, logique mathématique, il n'y a plus de place pour la foi. Ça rejette. Je crois qu'il faut bien comprendre ce que représente la logique, ce que représentent les mathématiques, ce que représente la métaphysique, pour voir comment l'homme qui réalise quelque chose à partir de la matière, il voudrait réaliser quelque chose à partir de son intellect possible. C'est-à-dire à partir de cette possibilité de l'intelligence ouverte à tout. et la possibilité de l'intelligence ouverte à tout semblent se fonder sur la logique, semblent se fonder sur la logique mathématique. En dernier lieu, et nous avons alors à ce moment-là un immense champ d'action qui se présente à nous, le virtuel, tout ce que l'intelligence peut faire, tout ce que l'intelligence peut réaliser, c'est pas la métaphysique, c'est le possible, c'est l'être coupé de l'existence et c'est l'être n'existant que par l'intelligence et que dans l'intelligence. Alors, il faut bien comprendre que le facere réel est le gardien d'un certain réalisme, puisque ce facere est quand même ma première union, ma première coopération avec le monde matériel. Je suis obligé, si je façonne quelque chose à partir de la matière, de voir qu'il y a quelque chose intérieur à moi. La matière. La matière toute grosse. Et je suis obligé de voir que ce facere, lorsqu'il devient spirituel, c'est la logique. Et lorsqu'il fait alliance avec des mathématiques, il pense qu'il explique tout. Alors, il faut voir que l'intelligence, elle n'a pas comme but de faire quelque chose. C'est l'intelligence unie au corps, unie au monde physique, qui a comme but, comme finalité première, de faire quelque chose, un milieu pour le corps. Mais mon intelligence séparée du corps, elle n'a pas comme première activité de faire, ce serait la logique, sa première activité, c'est au contraire de recevoir ce qui est, ce qui existe, pour remonter jusqu'à l'être premier. Si sa première activité est l'être de raison, donc une relation, elle n'atteindra jamais Dieu. Dieu n'est pas une relation. Donc on demeurera dans une fabrication humaine, la logique mathématique. Alors que la première activité de l'intelligence, c'est de respecter ce qui est autre que lui et de ne pas ramener l'autre à soi en ne le considérant que comme relatif à moi. C'est de découvrir que la vie de l'intelligence commence à reconnaître l'autre. Ceci est autre que moi. Et par là, une recherche de plus en plus profonde pour découvrir ce qu'il y a de premier dans la réalité. Alors vous comprenez comment le facere est la première activité de l'intelligence, pratique. Et la première activité d'intelligence spéculative, c'est de respecter l'autre et de ne pas le faire. C'est pas commode, à ce point de vue-là, d'être une personne humaine. Puisque la personne humaine doit respecter que notre première activité intellectuelle, humaine, c'est de faire quelque chose, faire la cuisine. Prométhée volait le feu. L'homme est un voleur. Il vole le feu au dieu. Et faisant, volant le feu, il arrive à faire, à être forgeron. Il arrive à fabriquer des tas de choses. Parce que par le feu, il les domine. Et s'il n'est pas feu, donc en étudiant bien le facere de l'homme, on respecte l'autre. Il fait avec un autre. Mais il ne fait pas tout seul. Vous voyez la nostalgie d'être Dieu. C'est de faire tout seul. C'est toujours cette solitude. Hein. Alors que quand il fait quelque chose, il le fait avec un autre. Toujours. Avec le feu, avec le bois, avec la terre, avec le sable. Il fait quelque chose avec un autre. Il coopère. Et lorsque il veut découvrir plus profondément lui-même et la réalité, il est obligé de respecter l'autre. Ceci est. Donc, la personne humaine, dans ce qu'elle a de plus fondamental, respecte l'autre. Dans le facere manuel, et respecte l'autre dans sa connaissance spéculative. Il doit respecter l'autre. Cette dimension personnelle du facere est donc capitale, puisqu'elle maintient le respect de l'autre. Donc elle maintient que la recherche du premier est au-delà de l'homme. Que le premier dans l'homme est toujours deux, jamais seul. Parce que quand il fabrique quelque chose, il le fabrique avec la terre, avec le sable, avec le bois, avec l'autre. Et lorsqu'il est dans sa connaissance spéculative, il respecte l'autre. C'est très curieux de voir que dans l'élément de la personne, le facere, le travail, est essentiel. C'est donc, il est essentiel à la personne humaine, pour être une personne, de se considérer comme relatif à un autre et de respecter l'autre. Si c'est fondamental à la personne humaine, on comprend très bien que la tentation la plus radicale par rapport à la personne humaine, c'est de vouloir se couper de l'autre et d'être seul. On touche quelque chose de très très fondamental. Et c'est important de comprendre que l'élément dernier de la personne humaine, c'est le facere. C'est d'affirmer que l'homme est second. c'est d'affirmer que l'homme est relatif toujours à un autre. Relatif à un autre dans son fatuité matérielle, relatif à un autre dans son jugement d'existence. C'est quand même important de voir que l'affirmation de la personne humaine, c'est d'affirmer qu'il n'est pas premier. C'est donc l'ouverture à l'autre. Si je ne suis pas premier, je dois être relatif à l'autre. Je suis relatif à l'autre dans mon travail, je suis relatif à l'autre dans ma spéculation. Voilà ce que je peux affirmer en essayant de comprendre les éléments de la personne humaine. Et ce fait de considérer que le fatuité est nécessaire à la personne humaine, je pourrais dire que le fatuité est nécessaire à la personne humaine parce qu'il est le gardien de l'altérité. Il est le gardien que je ne suis pas seul et que fondamentalement je dépends d'un autre. Pour construire, pour faire quelque chose et pour contempler. Vous voyez ? C'est vraiment l'illustration merveilleuse. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Nier, ça a existé hein, en scolastique, nier le fatuité comme élément essentiel à la personne humaine. C'est donc condamner l'homme à être seul. C'est donc, au point de départ, il est religieux, alors il accepte d'être dépendant de Dieu. Mais dès qu'il n'est plus religieux, il veut trouver en lui la solitude absolue. Donc, ce qui est gardien de la vérité, c'est bien le fatuité. Faire quelque chose. Et on sait très bien hein, que faire quelque chose nous remet dans un équilibre vrai. Le fatuité intellectuel, qui est la logique, doit être au service de la métaphysique. Alors, on voit les deux gardiens, le travail manuel, et le gardien de la personne humaine. Et le travail métaphysique est le gardien de la personne humaine. Dans le travail manuel, je travaille avec une matière. Dans la recherche métaphysique, je découvre que toute ma vie intellectuelle, c'est de reconnaître ceci est, de reconnaître l'autre comme moi. Je crois ça extrêmement important, puisque aujourd'hui, on est obligé d'aller très loin pour sauvegarder la vérité. Dans ce sens-là, on peut dire qu'aujourd'hui, pour rester dans la rectitude, il faut une métaphysique. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Le progrès de la science a été tellement rapide que on risque toujours de se laisser séduire par les mathématiques. Et pour ne pas être séduit par les mathématiques, il faut le fâcherer. Réaliser quelque chose avec la matière, avec le monde humain, et réaliser quelque chose au plan métaphysique, la recherche de la vérité. Ceci est la recherche de la vérité. On respecte l'autre. Je crois que c'est très important de comprendre que nous sommes acculés grâce au progrès de la science et des mathématiques. On est acculés à regarder ce qui est le gardien du réalisme, le fâcheré, faire quelque chose au plan matériel et au plan spéculatif. Ça nous montre bien que se fâcherait, parce que nous sommes liés au corps, est quelque chose d'essentiel. Le reconnaître à la personne humaine. Vous voyez, ce serait très intéressant à voir ce que l'ipsolipsisme affirme au point de vue de la personne. Comment, en poussant l'exigence de la solitude, pour trouver le fondement dernier, on essaie de tout construire à partir du moi, le moi le plus profond, le plus radical. On n'arrive jamais à ce premier moi. Oui. C'est un peu, vous voyez, la recherche du premier homme. Qu'est-ce qu'il y a en moi de plus radical? Et ce qu'il y a en moi de plus radical, est-ce que c'est moi? Ça ne peut pas être moi, puisque je ne suis pas maître de mon existence. C'est donc la mort qui est là, présente, et qui m'oblige de considérer que mon moi n'est pas premier. On comprend très bien que la mort, à ce moment-là, vient au service de montrer ce qu'il y a de premier dans l'être. On est acculé d'aller extrêmement loin pour répondre. Autrement, on est pris par le gouffre et on est saisi dans cette attraction. Et il n'y a plus que ça. Alors, on doit s'accrocher le plus vite possible à ce qui est. Et on s'accroche le plus vite possible à ce qui est, on arrive au jugement d'existence. Bon, nous avons donc vu tous ces aspects qui forment la personne humaine. Le dernier, c'est le corps. Nier son corps, c'est nier sa personne. C'est curieux et c'est très important. Aujourd'hui, nier son corps, c'est nier sa personne. Alors, il faut essayer de comprendre la place exacte du corps dans la personne humaine. Et c'est très important parce que le corps a une noblesse particulière par rapport à la personne. Sa noblesse particulière, c'est de commander le devenir. Le corps est premier dans le devenir humain. Et parce qu'il est premier dans le devenir humain, il veut toujours réclamer sa priorité. Le corps se veut plus ancien que l'âme. C'est faux de dire ça, parce que on ne peut pas les comparer. Dire que le corps est plus ancien, il est formé avant. Et c'est pour ça qu'on voudrait que l'âme soit avant. Pour que le corps ne puisse plus se réclamer « Ah, j'ai existé avant mon âme. » Mon corps a une vieillesse particulière. Il est l'ancêtre. Et c'est vrai. Par votre corps, vous êtes relié à Adam. Donc il est l'ancêtre. Vous n'êtes pas relié à Adam par votre âme. Non. C'est par votre corps. Le corps a donc une ancienneté très spécial. Et il réclame ce droit d'aînesse. Je crois. Alors il faudrait évidemment regarder ceux qui veulent que l'âme soit immédiatement présente dans le corps, dans l'embryon, dans le fœtus, tout de suite, pour que justement le corps n'ait pas cette prétention. Mais je crois que le réalisme consiste à considérer que le corps a cette prétention. Il est premier dans l'ordre du devenir. C'est normal, du reste, qu'il soit premier dans l'ordre du devenir. Le devenir a une ancienneté qu'il réclame dans notre monde physique. Le devenir est premier. Notre monde physique, sans l'homme, est un monde du devenir. Et il existe dans son devenir. Et puisqu'il existe dans son devenir, il existe avant l'esprit. Tout le monde est d'accord que nécessairement notre monde physique a une antériorité par rapport à ce qu'est l'homme, l'homme n'est pas descendu du ciel avant l'univers. Tout le monde reconnaît cet aspect de l'évolution. Avant que l'homme apparaisse dans l'univers existait. Ah, ça c'est très curieux. L'univers existait avant l'apparition de l'homme. Donc, si je suis dans cet univers, si je fais partie de cet univers a sur moi une ancienneté remarquable. Il faut le reconnaître, ça. Parce que ça explique des quantités de choses. Il faut reconnaître que notre monde physique a eu sa propre ancienneté, qu'il a existé avant que l'homme apparaisse. Mais ceci est évidemment quelque chose que j'affirme en raison de cette cohabitation de l'homme dans l'univers, que l'homme ne pouvait pas être en premier lieu son univers. Ah. Il reconnaît que il est un petit univers dans le grand univers, mais que cet univers matériel l'a reçu. Comment ? Je n'en sais rien, point de vue philosophique. L'apparition de l'homme dans l'univers reste quelque chose de caché, que je ne sais pas du tout. À quel moment c'était fait ? Et comment c'était fait ? Je dois là vraiment inventer un mythe. C'est ce que les philosophes ont fait. Pour ne pas qu'il y ait un trou noir, c'est-à-dire une non-connaissance. L'intelligence humaine a horreur de ça. Alors elle invente vite des mythes. Et il y a le mythe inventé de la création de l'homme. Et tous ces mythes philosophiques inventés nous montrent bien que l'homme ne sait pas son origine. Et c'est quelque chose de très douloureux, hein, de ne pas savoir son origine. Comment l'espèce humaine est apparue dans le monde. Vous faites des mythes, des hypothèses, mais vous ne savez pas. Dans la multiplicité de ces mythes, de ces hypothèses, montre bien qu'on ne sait pas. Autrement, il y aurait une certitude. Il n'y a pas de certitude. Alors, pour le philosophe, c'est quand même très grave, ça. L'homme apparaît orphelin. Vous ne pouvez pas dire que, selon l'évolution, l'animal est devenu un homme. Philosophiquement, ça ne tient pas. parce que le passage de l'animal à l'homme est quelque chose de tellement formidable que vous ne pouvez pas, vous le faites en hypothèse, mais vous savez que ça ne tient pas. Donc, une fois de plus, on est dans l'ignorance de l'apparition de l'homme dans l'univers. Il y a uniquement la production de ces mythes successifs. Et pour le philosophe, évidemment, ce qui est dit dans l'Écriture reste quelque chose de mythique. C'est un mythe. Je ne sais absolument pas philosophiquement comment ça s'est fait. Et c'est très curieux, ça, du reste. Hein. Parce que c'est quand même terrible pour l'homme, au point de vue philosophique, de ne pas savoir que son origine est ignorée. Et que ces mythes qu'on donne, ce sont des mythes. C'est très bon pour les enfants. Mais dès que le logos apparaît, dès que la science apparaît, ça ne tient pas. Alors, vous êtes obligé de dire « je ne sais pas ». Je regarde ce qui est maintenant. Mais je ne peux pas avoir recours à l'origine. C'est très ennuyeux, hein, puisque le corps, c'est ce qui me met dans le devenir. Or, le devenir, je ne peux le connaître que si je connais le point de départ et le terme. Or, deux choses que je ne connais pas, le point de départ et le terme. Philosophiquement, je suis obligé de reconnaître ça. Je ne connais pas mon point de départ de ma race humaine. Je sais que j'appartiens à la race humaine. Et non pas à la race animale. Et je ne sais pas quel est le terme. Vous voyez, c'est très important pour nous d'être obligé de reconnaître cela. Parce que ça fait comprendre pourquoi l'homme, laissé à lui-même, est dans une terrible fragilité. Au point de vue philosophique, dans une terrible fragilité, puisqu'il ne connaît pas son point de départ et son terme. Il est obligé, à l'égard de son point de départ, de raconter des histoires, des mythes, très intelligents peut-être, très bien faits, mais il ne connaît pas. Et son terme, ce qui fait que la mort est terrible. C'est un abîme, je ne sais pas où. Je prends le train, mais je ne sais pas où il va. Où est-ce que je vous dirai? Au point de vue philosophique, il faut bien voir qu'au point de vue philosophique, je suis entre deux ignorances capitales. Et c'est dur pour l'homme d'être dans cette ignorance capitale. la foi chrétienne me donne une solution, mais c'est la foi. Et ça fait comprendre pourquoi on se réfugie dans la foi et qu'on ne cherche pas une philosophie, puisque le point de départ humain est le terminum, je ne peux pas le dire. Donc je suis un être terriblement éprouvé de ne pas connaître son point de départ et son terme. Je suis dans une solitude terrible. Il faut bien voir ça. L'homme est dans une solitude terrible de ne pas connaître ça. Ce qui, de fait, l'excuse énormément par rapport à toutes ces théories, ces mythes qu'il invente, ces philosophies mythiques. Parce qu'au fond, l'ipsolipsisme est une philosophie mythique. On cherche son point de départ en nous-mêmes. Et chercher notre point de départ en nous-mêmes, impossible. On est un être relatif par notre corps. Je vous laisse dans cette situation.